Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
En Afrique, les femmes du secteur informel constituent 70% de la main-d'œuvre agricole, participent à la production de 90% des denrées alimentaires et produisent plus de 60% des biens économiques. Caroline Poncelet Lokemba, présidente de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Nathalie, je vais bien, merci.
Quels sont les avantages pour une dame qui mène une petite activité, par exemple dans l'agroalimentaire, à rendre son business formel? Est-ce que vous pourriez nous citer quelques avantages en particulier qui pourraient les inciter justement à faire le pas de passer de l'informel au formel?
Les avantages sont nombreux, à savoir, par exemple, avoir des crédits bancaires, parce que si une femme reste dans l'informel, elle n'aura pas accès au financement, c'est-à-dire avoir des crédits bancaires. Elle n'aura pas accès, par exemple, à l'exportation. Et si une femme quitte l'informel, elle aura plusieurs avantages, entre autres l'accompagnement des institutions publiques et privées, voilà. Il y a plusieurs avantages, donc c'est mieux de passer au formel que de rester à l'informel. J'ai toujours dit que si les entreprises des femmes croissaient au même rythme que celles des hommes, on arriverait à créer des milliers d'emplois ici en RDC. Parce que nous regardons aujourd'hui, nous voyons que les femmes démunies, manquant de tout, arrivent quand même à monter un petit business, c'est-à-dire un business de subsistance, un business pour aider la famille, pour pallier aux problèmes de la famille. Alors, si aujourd'hui nous arrivons à aider ces femmes-là à se structurer, à se formaliser et à se bancarisé, en tout cas, on aura créé des milliers d'emplois. Aujourd'hui, notre économie est soutenue par la femme. Et il y a plusieurs mesures incitatives. Donc, le gouvernement ou bien nous, en tant que le privé, nous devons accompagner les femmes à devenir des entreprises capables de contracter, à être des entreprises fortes et ça va vraiment bouger et changer les choses. Donc, pour que ces femmes passent de l'informel au formel, il faut mettre en place des mécanismes incitatifs pour les aider, les accompagner par des formations, par des financements et que les femmes puissent se fédérer pour qu'elles puissent arriver à de bons résultats.
Caroline Poncelet, l'accès des terres cultivables, éventuellement parler des mines dont vous vous occupez également aussi.
Il y a l'accès aux terres, il y a des lois favorables sur l'entrepreneuriat féminin, précisément ici en RDC. Il y a des lois qui favorisent, avant il y avait cette interdiction des femmes d'avoir accès aux terres, mais pour le moment tout est permis, les femmes peuvent avoir accès aux terres et investir sur leurs projets. Voilà, il faut avoir des très bons projets, vous pouvez vous regrouper, mais il faut aussi avoir des projets bancables, donc des projets qui peuvent être vendables. Et s'il y a des investisseurs ou bien des bailleurs de fonds, quand ils voient votre projet, ils se disent « je peux financer ces projets-là ». Mais si vous n'avez pas un très bon projet bancable, c'est difficile pour qu'on puisse financer votre projet. Si vous avez un projet, allez vers les experts qui puissent élaborer pour vous des très bons projets. Et aujourd'hui, au niveau de la RDC, nous avons plusieurs financements pour les femmes, pour les jeunes et pour le PME. Et il suffit seulement de savoir la porte où toquer et vous aurez des réponses favorable.
Caroline Poncelet, vous avez parlé d'aller voir des experts, mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent offrir ce type de service à un prix très réduit ou gratuitement? Parce que là, on parle de gens qui n'ont déjà pas d'argent à la base.
Par exemple, nous, à la Nouvelle Chambre des Commerces nationale, nous aidons les entreprises qui sont membres de la Chambre des Commerces en plusieurs avantages, entre autres l'élaboration des projets bancables et puis l'accompagnement, la recherche de financement. Tout ça, nous le faisons pour l'avantage de nos membres. Et le fait que la majorité de nos membres sont des femmes, en tout cas, nous le faisons pour ces femmes-là.
Merci beaucoup, Caroline Poncelet. Marie-Hélène Ngoï-Sango, présidente du Forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises. Bonjour, comment allez-vous?
Je vais bien.
Alors, votre organisation, pourriez-vous nous dire quelle région vous couvrez, quel type de produits vous offrez et combien de femmes vous avez?
Nous sommes en RDC, je peux dire, en commençant par Kinshasa où nous couvrons déjà plus de 1000 femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et par rapport aux provinces, nous sommes dans le Congo central, le Kwilu, nous sommes dans le Grand Katanga qui prend les nouvelles quatre provinces. Nous sommes dans le Nord et Sud Kivu, nous sommes dans le Maniema, nous sommes dans le Dokasai, donc Kalanga, Mbujima et Chikapa au niveau de l'Équateur. Nous sommes à Bikoro, voilà un peu.
Au niveau des moyens, avec toutes les dames qui travaillent avec vous, là, en synergie, quels sont les principaux défis que vous avez à relever au niveau des moyens pour travailler?
Et effectivement, ce n'est pas une mince affaire. Par rapport aux moyens, jusque-là, nous travaillons avec nos cotisations, c'est-à-dire nos propres moyens. Nos propres moyens, il y a des cotisations parce qu'il y a de ces femmes-là qui ont compris que travailler seules, elles ne peuvent pas aller loin, mais quand on travaille en synergie, et nous pouvons aller au-delà. Et voilà, jusque-là, nous-mêmes, nous nous prenons en charge. Mais effectivement, avec l'accompagnement du gouvernement, à un certain moment, par exemple, pour la foire, nous avons été à Durban. Je dirais que c'est le commerce extérieur qui nous a assistés. Donc là, je parle directement du gouvernement congolais. Nous avons été aux îles des Comores. C'est le ministère de l'intégration régionale qui nous a assistés. Et en dehors de ça, les femmes se prennent en charge jusque-là.
Marie-Hélène Ngoï-Sango, est-ce que vous rencontrez par exemple des problèmes au niveau des transports pour transporter vos produits, au niveau des emballages, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour produire justement tous vos produits?
C'est encore très difficile du moment où nous avons besoin à ce que le gouvernement puisse arranger les routes à des certes agricoles. C'est n'est qu'en ce moment-là que nous aurons la facilité de faire sortir tout ce qu'il y a comme produit agricole, les amener vers le centre-ville. Sinon, c'est un problème que nous avons, très un problème majeur. En dehors de ça, par rapport aux emballages, puisque nous, nous prenons pour le commerce extérieur, la vente en ligne, et surtout, essayer un peu de changer les donnes, c'est-à-dire sortir de l'ordinaire. Quand nous produisons, quand nous transformons, c'est pour présenter un produit présentable et qui respecte les normes internationales. Mmh. Alors, ça nous demande les emballages. Nous avons un problème d'emballage, un problème vraiment majeur. À chaque fois que nous voulons faire des commandes, à chaque fois que nous voulons acheter des emballages, ça ne vient que de l'extérieur du pays.
Ce qui vous coûte très cher, alors,
j'imagine. Énormément cher, énormément cher. C'est-à-dire, un produit que vous pouvez présenter, c'est pas à 1 $, à 2 $, mais puisque l'emballage vient de l'extérieur, ça va coûter plus cher.
Vous êtes obligé de l'acheter où, cet emballage?
Souvent, ça vient de la Chine, ça vient de Dubaï, ça vient de l'Ouganda, et deux fois l'Europe, je peux dire.
Selon vous, Marie-Hélène Ngoï-Sango, quels sont les appuis ou méthodes efficaces pour autonomiser les femmes et jeunes au plan économique?
Moi, je dirais la façon d'autonomiser la femme, c'est d'abord de réunir toutes ces femmes-là, de connaître leurs besoins majeurs, de les accompagner en commençant par la formation et puis l'appui financier. Là, ça ne peut pas manquer. L'appui financier et puis le suivi. On ne peut pas financer et puis abandonner comme ça. Donc, il faut qu'il y ait cette formation. Il faut qu'il y ait cet accompagnement et il faut qu'il y ait ce suivi-là. Et en dehors de ça, moi, je vous dis que rien ne peut marcher. Mais quand il y a l'accompagnement, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan même moral, il faut former cette femme-là, là où elle n'est pas à mesure de s'en sortir seule. Quand elle est formée, elle va comprendre que je dois travailler en synergie, je dois travailler au-delà pour respecter les normes, pour être à mesure de répondre à la compétitivité. Et cette femme-là, elle va voler de ses propres ailes.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Stéphanie Padonou, vous êtes entrepreneur d'origine gabonaise dans l'immobilier au Canada, mais vous avez des projets en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, vous avez ouvert une succursale. Quel est l'objectif finalement, sachant que oui, on sait que l'habitat en Afrique est en plein développement et que la demande est croissante, notamment dans les villes, mais quel est votre objectif principal à vous et quel plus vous apportez à travers ce type de projet?
En gros, on a créé ici au Canada une compagnie par action, le groupe Carocha, depuis 2016, on s'est incorporé officiellement, mais ça existe depuis quelques années auparavant. Et là, en fait, ça regroupe un certain nombre d'investisseurs africains, d'origine africaine, mais vivant en Amérique du Nord. Donc, on acquiert des bâtiments ici, donc on est essentiellement dans l'immobilier, mais on touche à d'autres aspects également. Mais avec toujours cet objectif, vu qu'on vient de différents pays africains, au sein du groupe Kavocha, il y a des Ivoiriens, Béninois, Gabonais, on vient de différents pays, comme je l'ai dit. Donc en fait, c'est toujours avec cette vision de pouvoir aller investir, créer, bâtir en fait dans notre pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, Kavocha, ça veut dire bâtissons ensemble. Et donc, c'est un petit peu cette vision-là qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé donc à ouvrir une première succursale en Côte d'Ivoire, parce que justement, on a des membres qui sont retournés en Côte d'Ivoire pour s'installer. Et donc, il y a des projets qu'on compte mener à bien. On va commencer par la Côte d'Ivoire, mais au fur et à mesure, justement, des pays, des opportunités, et puis bon, de la stabilité aussi politique, hein, parce que l'économie, ça va un petit peu avec ça. Donc, voilà, au fur et à mesure, notre objectif, c'est vraiment d'asseoir, de créer des projets ici qui généreront de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on vit ici, on est ici, donc il y a peut-être un meilleur contrôle et aussi la monnaie est plus forte, mais de ce qui va découler d'ici, donc en termes de revenus, on pourra plus facilement justement investir dans nos pays respectifs. Donc c'est un petit peu ça la vision en fait.
Stéphanie Padonou, en matière de coordination sur le terrain en business, hein, comment est-ce que vous procédez justement?
Là, on a eu la chance d'avoir des membres de Kavocha qui sont retournés. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui sont sur place là-bas, qui, elles, nous mettent en contact avec des gens sur le terrain. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que pour la plupart d'entre nous qui sommes à l'extérieur depuis parfois une, deux, trois décennies, ça dépend des membres et tout, ben, on sait que pour faire des affaires au niveau du continent, c'est quand même beaucoup aussi par référence, par connaissance. Donc c'est toujours important justement d'avoir des personnes sur place qui connaissent le système, qui voient comment ça fonctionne, parce que c'est pas du tout la même façon de procéder. Et donc ça permet justement de développer en fait des affaires avec, oui, les connaissances d'ici, en fait en s'adaptant aux réalités locales. Parce que c'est sûr que quelque part on peut pas débarquer, on connaît personne, on sait pas à quelle porte frapper et tout, donc c'est toujours beaucoup plus difficile. Puis bon, Nous également, par la suite, il y a des membres qui comptent au fur et à mesure de l'évolution des projets, justement, faire des va-et-vient. Ça permet justement cette intégration-là. Et puis aussi de laisser le contrôle après ça à une équipe locale et puis de surveiller à distance et de poursuivre avec d'autres projets et ainsi de suite.
Stéphanie Padonou, vous êtes dans l'immobilier. Est-ce que vous parlez par exemple d'habitations bon marché, adaptées au climat, de désengorgement des villes, notamment moderniser le milieu rural? Qu'est-ce que vous prévoyez finalement dans ce domaine-là pour l'Afrique?
Au départ, effectivement, l'immobilier, c'est oui un besoin criant, mais c'est aussi un outil, un tremplin. Ça fait partie des besoins de base, quelles que soient les gammes, effectivement, de logements qui sont prévus. Mais au-delà de ça, l'immobilier nous permet de développer d'autres affaires, de générer de l'argent pour pouvoir développer différents autres commerces, en fait. Donc, c'est juste que la pierre, de façon simple, brute, c'est une des rares choses, en fait, qui, avec le temps, prend de la valeur, dans laquelle on se trompe le moins. Et donc, à travers l'immobilier, il y a tous les corps de métier, il y a toutes les possibilités qui font en sorte qu'on n'aide pas qu'une personne. Au final, oui, il y a de l'argent qui est généré, mais il y a l'employabilité également, il y a un roulement. Donc, c'est un petit peu ça la vision que j'ai. C'est vraiment une vision plus étendue. Et justement, dans le groupe Cavocha, c'est vraiment nous, notre vision générale. Donc, on part de quelque chose que l'on connaît, mais pour essayer d'impacter différents milieux de façon beaucoup plus élargie, en fait.
Stéphanie Padonou, votre activisme, parce que vous êtes aussi très active au niveau politique, des droits humains, vous luttez pour l'alternance démocratique, l'assainissement des affaires, la lutte contre la corruption. Comment vous faites ce lien politique avec le continent?
Je suis à la tête de la CDMA, la coalition des liens mal acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, par exemple, au niveau du Canada, souvent, les dirigeants dans nos pays respectifs, lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a justement de l'évasion fiscale ou quoi, l'argent sort et l'argent est investi ici sous forme de villas, de châteaux, enfin bref. Nous, quand on arrive dans ces pays-là, qu'on s'y installe et tout, ben, forcément, on adopte les valeurs de l'endroit où on vit. Et donc, justement, par rapport à ça, on se dit, il y a incohérence. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire changer les lois ici, donc au niveau du gouvernement canadien, pour justement freiner cette évasion fiscale-là, du moins parce que on part d'un principe tout simple. Si justement c'est bloqué à l'entrée, ça permettra aux populations d'avoir, de garder cet argent-là et donc d'avoir des hôpitaux, des écoles, toutes ces infrastructures au niveau social. Et c'est vraiment ça la lutte. Donc en fait, on travaille au bout de la chaîne, mais pour régler vraiment des problèmes sociaux à la base, parce que c'est ça qui nous préoccupe.
Entre parenthèses.
La 20e conférence internationale de lutte contre la corruption de Transparency International s'est tenue à Washington fin 2022. Les principales victimes de la corruption sont les femmes pauvres, car de nombreux projets de développement sont mis à mal en Afrique à cause de cette endémie sans âge. Pour un point sur ce fléau universel qui ne montre aucun signe d'amélioration, Nani Talani a joint Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption.
Les nouveaux moyens de dissimuler l'argent illicite, que ce soit dans les paradis fiscaux ou même dans n'importe quel pays du monde à l'extérieur du pays d'origine, sont tellement plus faciles aujourd'hui avec la technologie d'information, avec les facilitateurs, et ça, que ce soit avocats, comptables, agents d'immeubles, sont de plus en plus sophistiqués, ce qui fait que c'est plus facile de vraiment cacher ces ressources illicites à travers le monde, et de les retrouver, parce que bien souvent, ce sont seulement des numéros, ce ne sont pas le nom des vrais propriétaires qu'on voit sur, en fait, ces ressources-là dans les pays. Ça facilite aussi le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de personnes. Et donc, encore là, les moyens sont plus sophistiqués. Dans le fond, c'est vraiment ce qui rend la corruption plus endémique.
Il est dit que la corruption pose aussi un problème de sécurité. Comment?
Il y a plusieurs éléments à cela. Et un, c'est que ce que la corruption peut faire, c'est que ça rend certains individus, des oligarques, des kleptocrates, beaucoup plus capables de contrôler des institutions gouvernementales et même juridiques dans certains pays ou certains éléments juridiques. Et ça alimente les conflits. Parce que justement, lorsqu'il y a une grande pauvreté et quelques personnes sont milliardaires, à ce moment-là, ça crée évidemment parce que les pauvres n'ont plus d'accès à des choses essentielles de survie dans leur pays. Évidemment, ça tue, ça détruit les infrastructures lorsqu'on a des conflits, bien qu'on le voit en ce moment ici dans un nombre de pays. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est une déstabilisation de l'État, des pays et entre pays. Parce que lorsqu'on alimente ceux qui sont là pour créer des problèmes dans notre grand monde, évidemment, ils sont capables d'en faire beaucoup plus, de détruire beaucoup plus qu'ils le feraient sans ces ressources et sans ces appuis qu'ils reçoivent. Mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent et qui sont là, parce que quand on parle de la technologie de l'information, ça permet de dépister, de retrouver aussi certaines de ces ressources-là. Donc, autant que la technologie de l'information aide à faciliter la corruption, en même temps, ça l'aide à dépister là où on peut retrouver les ressources et les personnes qui contrôlent ces ressources illicites.
Quelles sont les opportunités qui peuvent être exploitées pour combattre la corruption?
Nous avons un nombre de choses qui se passent, qui sont très importantes. D'une part, les leaders de différents pays se réunissent déjà depuis un nombre d'années, mais dans les dernières années, ont pris des engagements très importants. Nous avons les objectifs du développement durable des Nations Unies, surtout l'objectif 16 pour la paix, etc. Il y a aussi les conventions des Nations Unies, de l'OCDE, des régions, les conventions régionales.
On voit bien qu'il y a plein d'engagements qui pourraient favoriser la lutte contre la corruption, mais quel est le problème?
Le danger, ou c'est-à-dire le problème, c'est que la mise en œuvre de ces engagements, bien souvent, tarde. Ou certains pays s'engagent, mais ensuite ne donnent pas suite. Un autre aspect, c'est vraiment l'implication des sociétés, de pouvoir encourager les gouvernements d'impliquer leurs citoyens lorsqu'ils ont des problèmes à régler sur les meilleurs moyens de le faire. Je pense qu'un autre moyen important, c'est que de plus en plus, il y a un nombre de pays, c'est pas suffisamment nombreux, mais il y a un nombre de pays qui ont déjà mis en œuvre cette possibilité d'établir des registres pour les propriétaires, les vrais propriétaires de ressources, que ce soit des entreprises ou autres. Et évidemment, ce qui est important, c'est que ces registres-là deviennent publics. Et ça, c'est un autre moyen que plusieurs gouvernements se sont engagés à faire et certains l'ont déjà fait. À ce moment-là, ça devient encore plus difficile de cacher son argent ou d'établir des fiducies, non pas pour faire des bonnes œuvres, mais seulement pour pouvoir, évidemment, aussi cacher l'argent qui est illicite. Donc, voici certains exemples de ce qui est lancé et qui serait très important si la mise en œuvre se faisait avec plus d'urgence afin de s'assurer qu'on réduit ce grand problème pour l'humanité qui est la corruption.
Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption, était jointe par Nani Talani.
Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.